les enfants chanter, ensuite tout le monde chanter, chanter à la gloire du Seigneur. Il est digne de tout cela. Des cantiques de louange de la part de ses rachetés. Dieu vous bénisse richement. Il n'est pas là, mais je tiens à remercier frère Flavien. Je l'ai fait par message pour nous avoir donné un coup de main la semaine passée, vu l'indisponibilité du frère Albert. J'étais sur le point d'annuler le déplacement, mais c'est trop bas. Le frère Flavien m'a informé de son arrivée le 20, à la, presque la nuit, à 23h. Ça, moi, j'ai dit, ah ben, je vais voir si c'est la main de Dieu, je vais lui demander s'il peut le faire. Et il était d'accord, il pouvait le faire. Et j'en ai eu des échos. Donc, ça, que Dieu soit béni. Maintenant, je remercie les jeunes gens pour tous leurs gestes d'amour qui manifestent. Bon. Ces déplacements, ce sont des jeunes gens qui me les offrent. J'en ai encore un en suspens. J'ai demandé au frère Flavien s'il sera là. Il sera là. Et ce sera pour le 30 juin. C'était initialement prévu le 29, mais je lui ai demandé de reculer ça. Un jour. Compte tenu maintenant de ce qui est arrivé au frère Albert, parce que c'est arrivé la nuit de dimanche à lundi, nous étions un peu ébranlés dans tout ça, mais notre foi n'a pas été ébranlée. Nous sommes toujours confiants envers le Seigneur. Et j'ai demandé au frère Flavien s'il peut me remplacer cette semaine-là. Il est d'accord, Dieu voulant, on verra comment Dieu va conduire les choses, parce que l'homme propose, Dieu dispose. Ça va? Le 19 mai, nous avons présenté le jeune homme, c'est mon fiston ici. C'est sur cela qu'on s'est quitté, David et Lisa. Et c'est une étape. Bon, l'étape de la présentation n'est pas nécessaire, mais c'est bien de la faire comme ça. On sait, quand on les voit ensemble, on sait que ce sont deux jeunes gens qui ont des projets de continuer la vie ensemble. Ça va ? Comme ça, qu'on n'aille pas donner des signes alarmants aux parents de la jeune fille. Voilà, il y a le fils du frère Philippe qui vient tout le temps, qui est tout le temps avec ta fille, là. On sait pourquoi ils sont ensemble. Et je crois que les deux familles comptent franchir une étape supplémentaire. C'est biblique, cette étape-là, la remise de la dot. Dot doit être donnée. Et il compte le faire à la fin de ce mois. Maintenant, les questions de mariage font poser souvent de questions. J'ai reçu une question vendredi, ma sœur est là. Pardonne-moi ma sœur d'en parler. C'est, faut-il aller au préalable à l'état civil ou pas? Normalement, il n'y a pas d'indication là-dessus. Mais un pasteur exige que les fiancés passent d'abord à la commune avant de célébrer le mariage. Je lui ai dit que le pasteur a tout à fait raison, c'est logique, dans la mesure où c'est bien d'être marié devant Dieu, parce que le jour de la remise de la dot, le mariage est fait. Le mariage est accompli, un peu comme Marie et Joseph. Mais les gens, les deux fiancés ne vivent pas encore ensemble. Et se séparer après la remise de la dot équivaut carrément à un divorce. Bon, puisque Joseph était prêt à donner une lettre de divorce à Marie, mais l'ange l'a, comment dirais-je, l'en a empêché et lui a dit ce qui était réellement arrivé à Marie. C'est logique, c'est bien de passer d'abord par la commune. Parce que bon, si devant Dieu vous êtes marié, la Belgique, l'État belge ne reconnaît pas ce mariage, la remise de la dot comme étant un mariage. Il faut aller devant l'officier de l'État civil. Bon, si vous n'y allez pas, pour la Belgique, là-bas dehors, vous êtes des concubins. Bon, ils ont enlevé ce mot, ils l'ont changé, maintenant ce sont des compagnons. Ça va? Des compagnons et des compagnes. Mais nous, à l'Assemblée, on va dire ils sont mariés. C'est toujours mieux qu'on passe à l'état civil, parce que pourquoi le cacher au monde? On ne va pas le cacher au monde. Si on est marié, on est marié. Ça va? Et comme je dis toujours, le mariage, ce n'est pas la robe blanche, le voile qui vient à l'assemblée. Ce n'est pas ça. Le mariage est scellé le jour de la remise de la dot, le papa de la fille acceptant la dot, et on scelle le mariage. Ça, c'est devant Dieu. Le reste, maintenant, si vous voulez qu'on fasse un culte, on fait le culte. Et souvent, le culte est fait le jour où ils vont enfin vivre ensemble. Ça va? Et c'est ce jour-là, ben, il y a une fête, vous n'êtes pas obligé de faire la fête. Vous n'êtes pas obligé non plus de venir à l'assemblée. Il y a une chose, souvent, lorsqu'on inverse les rôles, je ne le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai des jeunes gens ici à qui je prêche la parole et c'est de leur donner un mauvais signal si je fais les choses à l'envers. Ça va? Donc, c'est pourquoi il vaut mieux qu'on respecte les étapes telles qu'elles sont données dans la Bible. C'est très bien parce que nous avons la responsabilité. Il y a un frère qui ne vient plus, mais qui me disait, frère François, nous amenons nos femmes et nos enfants à l'Assemblée pour voir la responsabilité que tu as. Moi, j'ai dit, oui, c'est vrai, c'est une responsabilité. Donc, je n'ai pas montré à vos enfants des choses contraires. Ou alors, si on le fait, bah, de toute façon, frère François est d'accord, il le fait. Non, il vaut mieux qu'on fasse les choses autrement. Maintenant, si vous voulez le faire ailleurs ou quoi, il n'y a pas de problème, c'est très bien, c'est selon ce que comme Dieu vous conduit. Mais au moins, les jeunes gens savent pourquoi c'est non, pourquoi c'est oui. Ça va? Et nous sommes heureux quand les jeunes gens font les choses correctement. Voilà. Si ça répond à la question, je crois que c'est bon pour tout le monde. Je ne fais pas exception de personne dans tout ça. C'est juste un message qu'on veut transmettre aux enfants. On ne va pas leur prêcher une chose et puis faire le contraire. Ça va? Bon, il faut qu'on fasse les choses telles que c'est enseigné. Et je regardais ici dans 1 Corinthiens 1er, verset 23, Paul dit, nous prêchons Christ. On ne prêche pas seulement Christ par la bouche, on prêche Christ aussi par nos vies. Vous voyez? Et c'est ainsi, si on prêche qu'il y aura les noces de l'agneau, nous ne devons pas prêcher les noces de l'agneau selon nous, mais nous devons prêcher seulement par la parole, mais nous prêchons les noces de l'agneau par nos vies également. Amen. Chez nous, les chrétiens, les choses se passent comme ça. Amen. C'est ce que la fille de David a dit à son frère lorsqu'il lui a dit, va demander à mon père et je serai ta femme. La fille de David, le fils de David, son frère n'a pas écouté. Bon, nous savons ce qui s'est passé. Ça va? Bon, entre-temps, je ne sais pas si vous avez appris le décès du frère Baruti. Le frère est décédé au Canada. Le frère, c'est vrai, on avait des différences dans la doctrine, mais c'était un puissant prédicateur. Il a contribué au message, à ce que le message soit répandu. Et il a prié pour des malades. Dieu a exaucé. Dieu a fait de grandes choses au travers de frère Baruti. En tout cas, il a fait un travail, un grand travail pour le Seigneur. Que Dieu ait son âme. Le reste, c'est un problème entre lui et Dieu. Et je crois qu'il a fait les choses de manière tout à fait sincère. Et nous pensons à la famille, prions pour la famille. Le frère avait 77 ans. Un grand frère, tu le bats, mais il avait 77 ans. Donc il n'était pas si vieux que ça. Mais bon. Dieu a jugé bon de le reprendre. Le frère a apporté la parole ici, hein, il y a quelques années. Pendant une semaine, trois fois. Il est venu trois fois. Il nous a prêché. Vous avez aussi les salutations du frère Jean-Pierre Ngachi, depuis les États-Unis. Il m'avait appelé pour s'enquérir des nouvelles du frère Albert. Et nous avons parlé longuement au téléphone. Et souvent, quand je parle avec lui, la première chose qu'il fait, c'est m'inviter aux États-Unis. Bon, mais ça, j'ai dit, frère, on verra ça l'année prochaine. Cette année-ci, je crois que cette année-ci, on verra. On est déjà assez secoué comme ça. Mais il m'a demandé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Et ils se sont joints à nous dans nos prières en faveur du frère Albert. Amen. Voilà, que Dieu les bénisse richement. Amen. Nous allons prier et nous allons lire dans Exode chapitre 33. Père céleste, Dieu tout-puissant, nous te remercions ce matin pour la grâce que tu nous fais de nous rassembler encore. Et chaque fois que tu rassembles ton peuple, c'est dans le but de lui parler. Aussi, puisque tu vas nous parler au travers de ta parole, nous te demandons de bien vouloir nous donner des oreilles attentives, que nous puissions écouter les choses selon l'Esprit, selon ton Esprit tel que l'Esprit les dit à l'église ce matin. Puisses-tu nous aider et celui qui prêche, que tu lui donnes également une langue exercée afin de pouvoir soulager, consoler ceux qui ont besoin de consoler, d'être consolés. Nous te prions de nous ouvrir ta parole, de nous l'inspirer alors que nous allons la lire. Que ta grâce soit sur chacun d'entre nous. Nous en avons besoin, car nos péchés sont nombreux et nous te demandons pardon pour cela. Sois béni encore, que ton nom soit richement béni. Et nous nous attendons à toi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous t'envoie ainsi prier. Amen. Nous allons lire dans Exode 33. Vous avez aussi les salutations du frère Mathieu. Je crois qu'il nous suit. Exode 33, verset 12. Sœur Suzanne, il faudra que tu le lui répètes. Moïse dit à l'Éternel, « Voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je te connaîtrai et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. » Verset 5 du chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous allons terminer ce point où Dieu se fait connaître à Moïse. Il y a un point que nous avons sauté, nous avons vu ce que c'est que compatissant, miséricordieux, riche en bonté. Nous avons vu tout cela, nous avons vu qu'on punit le péché, l'iniquité des pères. Nous avons juste sauté qui conserve son amour jusqu'à mille générations. Ce sera le titre ce matin. Il s'agit de son peuple. Maintenant, qui conserve son amour jusqu'à mille générations. La question que je peux poser, si vous me le permettez, à l'Assemblée ce matin, êtes-vous sûr que Dieu vous aime ?
Amen.
Après tout ce qui vous est arrivé, êtes-vous sûr que Dieu vous aime ?
Amen.
Avez-vous la preuve que Dieu vous aime?
Amen.
C'est quoi? Ah, il y a une personne qui a répondu. Je ne l'ai pas dit. Hein. Mais on l'a prêché ici pendant la semaine, une fois il y a quelques jours. Son amour concerne un groupe bien particulier ou un individu.
Amen.
Qui ça? Proverbe 8. Proverbe chapitre 8. Juste un verset. Dieu dit, au verset 17, « J'aime ceux qui m'aiment. »
Amen.
Amen. « Et ceux qui me cherchent me trouvent. » J'aime ceux qui m'aiment. La preuve que Dieu vous aime, c'est que malgré tout ce qui vous est, tout ce qui nous est arrivé, ici, nous l'aimons toujours.
Amen.
Si nous l'aimons, c'est parce qu'il nous aime.
Amen.
Pas moi qui le dis, c'est ce que Jean dit dans 1 Jean 4. Si après tout ça, on aurait dit, ben en tout cas, Dieu, il nous a envoyé tant de malheurs, ça ne va plus, nous ne l'aimons plus, eh bien, on ne serait pas là ce matin. Jean dit au verset 19, pour nous, le nous là c'est qui? Ah, au verset 11, ce sont des bien-aimés. Pour nous, nous l'aimons. Pourquoi? Parce qu'il nous a aimés le premier. C'est pour cela que nous l'aimons. Et aimer Dieu consiste à garder ses commandements. Aimer Dieu ne signifie pas venir uniquement les dimanches écouter et puis rentrer chez soi, prendre la parole, la mettre dans un coin jusqu'au dimanche suivant et encore, si le dimanche suivant, vous êtes là. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole.
Amen.
Heureux celui qui médite sa parole nuit et jour, chaque jour. C'est ça, aimer Dieu. Aimer Dieu c'est pas de donner une grosse dîme. Dieu n'en a rien à faire de la dîme, vous savez. C'est un moyen que Dieu donne pour que son œuvre marche, pour qu'il ne fasse pas pleuvoir l'argent du ciel. Sinon, ce serait un peu trop facile. Ça va? Et la dîme consiste même en un sacrifice, puisque c'est un dixième de vos revenus que vous sacrifiez. C'est un dixième, jamais plus. Les offrandes, ça, c'est à vous de savoir. Et si vous l'aimez donc, c'est la preuve qu'il vous aime. Au-delà de tout ce qui peut vous arriver, vous l'aimez toujours. Dieu aimait Job. Il l'aimait beaucoup. Job chapitre 1er. Dieu donne un témoignage de Job. Or, si Dieu pouvait donner un témoignage sur moi de cette manière, je serais heureux. Dieu aimait Job. Et il le dit à Satan. Il dit, Job est un homme spécial. Chapitre 1er, verset 1er. Il y avait dans le pays d'Outz un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Et Dieu l'aimait beaucoup. Et Dieu va même jusqu'à dire à Satan, n'est-ce pas, au verset 6, « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. » L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. Et qu'est-ce qui se passe là-bas sur la terre ? Eh bien, les gens m'aiment beaucoup là-bas sur la terre. C'est ce que Satan peut dire. Et Dieu va lui dire, « Oui, c'est peut-être. » Beaucoup de gens t'aiment beaucoup, mais là-bas, sur la terre, as-tu remarqué quelqu'un? As-tu remarqué mon serviteur Job? C'est mon serviteur, il n'est pas le tien. Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Vous savez, on peut lui retourner la question à Satan. Les gens aiment Satan, ce n'est jamais désintéressé. C'est parce que Satan leur facilite certaines tâches, hein, dans des voies sombres. Voilà. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison? Ça, Satan ne fait pas. Il ne protège pas. Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains? Ça, Satan ne fait pas non plus. Et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Ouais. Satan ne sait pas tout. Hein. Il dit qu'il est sûr. Son assurance, là, elle ne vaut pas grand-chose. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient. Je sais qu'il m'aime, non pas à cause des bœufs qu'il a, non pas à cause de ses champs, non pas à cause des enfants que je lui ai donnés, mais il m'aime tout court. Va, voilà, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est tout ce qu'il voulait. Alors, nous savons ce qui s'est passé. Et puis, lorsqu'on vient lui annoncer tous les malheurs qui sont tombés sur sa maison, verset 20, Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête. Puis, se jetant par terre, il se prosterna. Qui a dit qu'un chrétien ne pleure pas? La douleur, c'est la douleur. Quand quelqu'un pleure, ne venez pas lui dire « arrête de pleurer ». Priez pour lui. Il a des raisons de pleurer. Il dit « je suis sorti nu du sein de ma mère et nu je retournais dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job aimait Dieu malgré tout ce qui lui est arrivé. Au chapitre 2, au verset 9, sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité ? Maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi, nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. » La preuve que Dieu aime l'assemblée de la rue de Firlan, c'est que l'assemblée subsiste. Après les coups durs que nous avons encaissés. Nous l'aimons toujours. Les enfants chantent toujours ses louanges. La chorale chante toujours. Et quand je venais ici tout à l'heure dans la rue, je vous entendais chanter, j'ai dit Dieu est merveilleux. Comment peuvent-ils chanter? Notre frère est à l'hôpital. Nous en avons perdu un il n'y a pas longtemps. Et ça va très difficilement, mais on continue à chanter, on continue à le louer. Nous l'aimons toujours. Daniel était en captivité. Il pouvait se dire que Dieu ne l'aimait pas. Parce que Daniel, ce que Dieu reprochait à tout le groupe, à Judas, Daniel ne le faisait pas. Et les enfants hébreux non plus. Mais ils ont été associés dans le groupe, n'est-ce pas? Et ils sont partis en captivité. Job, nous voyons d'où il est passé, par où il est passé. Noé est passé par la tribulation. Secoué. Mais Dieu dit ceci de ces trois-là. Ézéchiel 14.
Verset 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, sur le pays, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine à ce pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur, l'Éternel. Tellement Dieu aimait ces trois-là. À cause de ces trois-là, il ne détruit pas le pays. Il n'exécute pas la sentence de la famine à cause de ces trois-là, parce que Dieu les aime. Et en aimant, il conserve son amour. Il ne le perd pas. Cet amour ne diminue pas. Quand bien même il nous arrive d'être infidèles, nos infidélités n'ont aucun effet sur cet amour. Si Dieu m'aime, parce que je l'aime, et que par moment, en tant que pécheur, je lui suis infidèle, Dieu ne me retire pas son amour. Il m'aime toujours. Il conserve cela. Daniel, j'ai cité Daniel, Daniel était un bien-aimé. Daniel, chapitre 9. Verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël, et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Judas a péché. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Ce n'était pas le dimanche matin, hein, ou le jour du sabbat, de sabbat matin. Hein. C'était un soir, au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, « Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Pourquoi moi? Car tu es un bien-aimé. » Sois attentif à la parole et comprends la vision. Amen. Dieu aime Israël. Il aime profondément Israël. Mais en Israël aujourd'hui, après toutes les souffrances qu'ils ont subies, il vous est difficile de trouver de véritables croyants en Israël. Et lorsque même on croise des juifs ici, mon cardiologue en est un. C'est un vrai juif, avec un nom vraiment juif et un prénom juif. Et on lui a diagnostiqué lui-même un cancer. Il s'est fait soigner. Et il est courageux, malgré tout, il auscultait. Je lui ai dit, vous voulez que je prie pour vous? Il a dit non. Il demande, vous n'êtes pas croyant? Il dit pas du tout. Moi, je lui ai dit, et pourtant, vous devriez l'être. Il m'a regardé, m'a dit, ben, si vous pouvez toujours prier pour moi, mais moi je n'y crois pas. Et Ça vous fait mal, hein, quand vous entendez ça. Dieu est miséricordieux. Évidemment, je les comprends. Ses parents, peut-être, puisqu'il a, il a rien plus jeune que moi. Ses parents ont peut-être passé, ou ses grands-parents ont peut-être passé par les difficultés que leur a imposées Hitler. Et beaucoup de Juifs ont perdu la foi à cause de ça. Comment est-ce que Dieu nous aime et laisse cela? Oui. Dans Deutéronome 7, et pourtant, Dieu aime Israël. Dans Deutéronome 7, justement, c'est parce que Dieu aime Israël que Israël a subi quasiment tout ce qu'il a subi. Deutéronome 7. Parce que l'amour de Dieu n'est pas comme l'amour des hommes. Deutéronome 7. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi, t'a élu, pour que tu sois un peuple qui lui appartienne entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. Mais il vous a choisi pourquoi ? Parce que l'Éternel vous aime. Parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères. L'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la millième génération. Envers qui ? Envers ceux qu'il aime et qui observent ses commandements. Ça va ? Il dit à Jérusalem, après que Judas, le royaume de Judas, ait fait ce qu'il a fait, ce qui les a conduits en captivité d'ailleurs, dans le psaume 137, mais il dit ceci à Jérusalem, capitale du royaume de Juda. Psaume 137. Ils sont sur les bords des fleuves de Babylone. Nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sion, c'est Jérusalem. Au sol de la contrée, nous avions suspendu nos harpes. Plus de cantiques. Ils ne chantaient plus. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, mais vous chantiez si bien. Et nos oppresseurs de la joie. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Dieu dit ceci à Jérusalem. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie. Dieu ne peut pas oublier Jérusalem. Que ma langue s'attache à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Malgré toutes ces infidélités, Dieu ne retire pas son amour de Jérusalem. Lui, et il reste fidèle. Il reste fidèle à ses promesses. Quand il a envoyé Jésus-Christ, Jean nous dit, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Oui. Quand nous sommes infidèles, ce qui est sûr, Selon ce qui s'est fait connaître dans Exode 34, il nous punit. Il punit l'iniquité. Il punit le péché. Mais il ne nous enlève pas son amour. Quand il nous punit tout en ayant, en gardant son amour pour nous. Apocalypse 3, cet âge mauvais de Laodicée. Regardez comment est Laodicée. Verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Ça lui fait mal, ça. Puisses-tu être froid ou bouillant? C'est oui ou c'est non. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Comme dit le frère, la tiédeur, là, ça donne à Dieu la nausée. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Donc, malgré tout ce qu'il lui reproche là, il lui donne encore un moyen. Et il a ce moyen en réserve. Il dit, j'ai des vêtements blancs ici. Je suis prêt à t'en vêtir. J'ai de quoi t'enrichir ici. J'ai de quoi te donner. J'ai de quoi faire de sorte que tu voyes. Alors il dit, au verset 19, « Moi, je reprends, puni. Je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. » Bien aimé. Si vous faites quelque chose de mal, qui offense Dieu, et que Dieu ne vous punit pas, posez-vous des questions. Si Dieu vous aime et que vous avez fait le mal, Dieu ne vous rattrapera pas. Il vous punira. Et vous verrez, comme David, vous verrez que vous méritez le châtiment que vous recevez. Maintenant, il arrive que le méchant qui parle, celui qui parle, n'est-ce pas? Il énumère les paroles de Dieu dans la bouche, n'est-ce pas? C'est ça le méchant. Eh bien, le méchant, il fait des choses qui ne sont pas correctes, mais Dieu ne le punit pas. Il donne même l'impression de le bénir. Psaume 73. Psaume d'Azaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir. Mes pas étaient sur le point de glisser. Pourquoi ça, frère Azaph? car je portais envie aux insensés. Vous savez qui est l'insensé? L'insensé, c'est celui qui dit il n'y a pas de Dieu. Et l'insensé fait ces choses, il donne l'impression de prospérer en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Tout au long de sa vie, vous ne voyez en lui que prospérité. Tandis que vous, qui aimez Dieu, qui le servez de tout votre cœur, pendant toute votre vie, vous avez souvent des nids de poules dans lesquels vous trébuchez. Vous avez souvent des problèmes, des tourments pour pouvoir être tranquille. Par moments, vous passez des nuits entières de prière. Vous amenez des requêtes à l'assemblée pour que l'on prie pour vous, tellement les problèmes vous accablent. Mais le méchant, il prospère. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Mon Dieu. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Or, nous avons bien lu, Dieu punit l'iniquité. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, se moquent, et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Hein? Vous, son peuple, le peuple de Dieu, vous commettez l'erreur de vous tourner de leur côté. Et vous dites, c'est un roi de l'Éternel. Non! Ne faites pas ça. Si, de toute façon, si vous aimez Dieu, parce que aimer Dieu, ça consiste à garder ses commandements. Si vous aimez Dieu, vous ne le ferez pas. Vous ne vous tournerez pas vers... Lui, Asaph avait certainement envie de se tourner vers Dieu. Mais il y a quelque chose qui l'empêchait. Il dit, c'est vrai, mon pied a failli glisser. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment et dit, comment Dieu saurait-il? Frère François, mais c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose. Moïse, en désobéissant, il frappe. Et c'était même pas une iniquité. Moïse a été poussé à bout par le peuple. Moïse, on a soif. Seigneur, ils vont me lapider finalement. Écoute, parle au rocher. Moïse était tellement excédé, il oublie que Dieu lui a dit, parle au rocher. Il frappe le rocher. Quand il le frappe, il dit, est-ce de ce rocher que sortira l'eau? Dieu avait dit qu'il le glorifierait devant le peuple. Et le rocher a donné des eaux abondantes. Moïse pouvait se dire, je suis tiré d'affaire. Non. Après que le peuple ait bien bu, Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et pourtant, Dieu aimait Moïse. Il parlait avec Moïse comme un homme parle à son ami. Il dit, à Aaron et à Myriam, qui étaient les grands frères et sœurs de Moïse, dans Nombre chapitre 12. Vous savez, le fait de voir, c'est votre petit frère, hein, tous les deux, ils ont un peu tendance à le mépriser. C'est votre petit frère, pour qui il se prend? Marie et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'il avait prise, car il avait pris une femme éthiopienne. Un jour, nous parlerons de cette femme éthiopienne. Parce que dans certaines doctrines, on a tendance à dire que Moïse s'est marié dans le désert avec une femme. Non, non, il s'agit bien de Séphora. Je vous montrerai cela, Bible en main. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Il s'agit bien de Séphora. L'Éthiopie en question, il s'agit de la Nubie, du temps de Moïse. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? Parce que si Dieu parlait tout le temps par lui, comment serait-il parti épouser une femme éthiopienne? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Or, et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, « Allez, vous trois, à la tente d'assignation. » Quand Dieu rassemble les gens, c'est pour leur parler. Et ils y allèrent tous les trois. Tu vas voir ce que Dieu va te dire. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Aaron et Marie, venez ici. Dites amen à ça. Il appela Aaron et Marie, qui s'avancèrent tous les deux, confiants certainement. On avait raison, puisque Dieu a donné dans la loi que Moïse lui-même a apporté, tu n'iras pas chercher de femme étrangère. C'est un type de Christ. Il est allé une première fois chez ses frères l'ont rejeté. Ils vont l'accepter la deuxième fois. Et quand ils vont l'accepter, Christ aura pris une épouse des nations. Et il dit, écoutez bien mes paroles, Aaron et Marie. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse, votre petit frère. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre Moïse, contre mon serviteur, contre Moïse? Dieu est lent à la colère, hein? Il a eu le temps de leur parler, hein? Verset 9, la colère de l'Éternel s'enflamma contre eux. Et il s'en alla. La nuée se retira de dessus la tente, et voici, Marie était frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Marie, et voici, elle avait la lèpre. Oh, mais c'est injuste. Pourquoi seulement Marie et pas Aaron aussi? Vous n'en faites pas. Ni Marie, ni Aaron n'entreront. Ils vont mourir avant. Tous les deux. Et Moïse aussi, avant, par après. Oui? Donc, Dieu dit, je châtie ceux que j'aime. Dans Apocalypse 3, 19. Donc, si Dieu ne vous aime pas, si Dieu ne vous châtie pas, Après que vous ayez fait le mal, posez-vous des questions. Hébreux chapitre 12. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Amen. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime.
Amen.
Amen. Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Moi, j'ai reçu des fouets de mes parents, mais je sais combien ils m'aimaient. J'ai donné quelques claques à mes enfants, mais je sais combien je les aime. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Mais si vous êtes exempte du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Amen. Et Dieu conserve cet amour-là contre vents et marées. Même ce fils-là qui vous fait tourner la tête tout le temps par ses désobéissances, eh bien, Dieu, si Dieu l'aime, Dieu l'aime. Il le punira. Jacob a menti à son père. Il a volé la bénédiction de son frère. Et Dieu l'aimait. Jacob a connu des troubles, hein. Dieu l'a châtié. Amen. À tel point que les tribulations de Jacob sont connues dans la Bible. Tout cela, tout simplement, parce que Dieu l'aimait. Dans tout ça, vous ne voyez nulle part Dieu châtier Ésaü. Cherchez. Ésaü. Bénis-moi, bénis-moi. Non, j'ai donné la bénédiction. C'est la seule bénédiction. Isaac dit, bon, viens. Il lui donne une bénédiction. Là. Ésaü va prospérer. Jacob a dû fuir la maison de son beau-père, qui était son oncle d'ailleurs. Oui, c'est ce qu'était le frère de sa mère. Là-bas. Ses beaux-frères commençaient à mal parler de lui. Il les a entendus. Jacob a dû partir en catastrophe. Et quand ils ont fui, je réfléchissais sur ça cette nuit, Léa et Rachel partent, Léa n'emporte rien que ses affaires. Rachel prend les dieux de son père et les met. Non. Vous savez, quand vous épousez, quand vous mariez à un fils de Jacob ou à une fille de Jacob, il faut que le dieu de Jacob soit votre dieu.
Amen.
Rachel devait oublier les dieux de son père et aller disant à Jacob, ton dieu sera mon dieu. À tel point qu'elle a eu difficile à concevoir. Tandis que, d'une manière incompréhensible, Dieu bénissait Léa. Léa n'était pas aimée de Jacob, ben, on la lui a imposée, mais Dieu n'arrêtait pas de bénir Léa. Elles étaient en compétition. Eh bien, Léa était toujours gagnante de la compétition. Et... Rachel va même tenir Jacob par le col et lui dire, je veux un enfant. Mais ce n'est pas moi qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne les enfants. Bon, finalement, Dieu a donné cet enfant. Puis elle en a donné un deuxième. Elle en est morte. Parce qu'elle-même, elle dit, un enfant, sinon je meurs. Il faut faire attention à ce que vous dites parfois. Donc, Dieu châtie ceux qu'il aime. Et il conserve cet amour. Tel qu'il vous aimait avant que vous ne trébuchiez, il vous aime toujours de la même manière quand il vous châtie, et il vous aime toujours après le châtiment. De la même manière. Il vous aime. Et parfois, ce sont des épreuves. Parfois, ce sont des châtiments. C'est selon. Quand c'est une épreuve, on le sait. Quand on retourne toutes les pierres derrière soi, on voit très bien que il n'y a rien. Qu'on allait de l'avant. C'est Dieu. Pierre dit, ne soyez pas surpris de ça. C'est une épreuve. Mais il ne faut pas que l'épreuve, en fait, soit un châtiment. Si c'est un châtiment, il faut arranger la chose. Tant que Dieu vous aime. Je parlais de Jacob et d'Ésaü. Quand Jacob est rentré, il a voulu donner des biens. Il a gagné tellement de biens là où il est parti. Il a voulu en donner à Ésaü. Ésaü dit, garde ça. Je suis dans l'abondance. Et pourtant, on va voir ce que Dieu dit d'Ésaü. L'amour de Dieu est étroitement lié, strictement lié à l'élection. Étroitement. Malachi, chapitre 1er. Et si Dieu vous a élu, Dieu ne s'est pas trompé. Il a élu, il ne reviendra pas sur son élection. Un élu n'est pas effacé du livre de vie de l'agneau. Ce sont ceux qui sont dans le livre de vie qui peuvent être effacés. Mais dans le livre de vie de l'agneau, l'élu ne peut pas être effacé, quoi qu'il fasse. Amen. Malachi, chapitre 1er. Oracle de l'Éternel, premier verset, à Israël par Malachi. Je vous ai aimé, c'est à Israël qui parle. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et Israël, c'est Jacob. Hein? Jacob, le nom a été changé en Israël. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel? Cependant, j'ai aimé Jacob et je l'aime toujours. Et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ses montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert et ainsi de suite.
savez, pour les méchants comme Esaü, s'ils disent il y a des ruines, s'ils veulent bâtir, Dieu dit qu'ils bâtissent seulement. Dans le psaume 73, on n'a pas continué, hein. Il faut considérer la fin. Dieu dit, je renverserai. Paul nous explique ceci, hein, que quand le Seigneur dit ça, c'est afin que le dessein d'élection subsiste. Ça veut dire que le dessein d'élection, le plan, l'objectif de l'élection demeure, que ça ne change pas. Dans Romains 9, il nous dit Romains 9, verset 8. C'est-à-dire, ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac, notre père. Car les enfants n'étaient pas encore nés. Et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance. Je vois déjà tous ces flatteurs autour de Pharaon. C'est vraiment un oin de Dieu. Oui, il est oin pour faire ça. Pour que Dieu manifeste sa puissance. Tous ces gens qui entourent les dirigeants, les conducteurs avec des flatteries, disant que c'est un enfant de Dieu, ce ne sont pas des enfants de Dieu. Dieu les met là dans un but d'accomplir son dessein. Amen. Et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut. Et il endurcit qui il veut. Homme, toi, tu me diras pourquoi blâme-t-il encore, car qu'est-ce qui résiste à sa volonté? Homme, toi, plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'un usage vil? Et que dire si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère prêts pour la perdition? Et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséricorde qu'il a d'avance préparés pour la gloire. Ainsi, il nous a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens. S'il vous a élu, c'était avant votre naissance. Mieux même, avant la fondation du monde. Et il ne s'est pas trompé. Éphésiens chapitre 1er.
Versets 3 et 4. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Je lis. Son amour est un amour électif. C'est-à-dire que Dieu procède à une élection. Nous, quand nous aimons quelqu'un, nous lui apportons des cadeaux, nous lui apportons des choses, des objets, ou alors, si c'est dans le cadre d'un mariage, nous épousons la personne. Mais l'amour de Dieu n'est pas dans ce sens-là. L'amour de Dieu, quand Dieu vous exprime son amour, il vous élit, il vous choisit. Et il le fait avant même la fondation du monde. La preuve de son amour, c'est l'élection. Quoi qu'il arrive, je lis, son amour, quoi qu'il arrive, son amour était prouvé par le fait qu'ils étaient choisis pour le salut. Il parle de Jacob et d'Ésaü. Car Dieu vous a choisi pour le salut par la sanctification de l'esprit et la foi dans la vérité. Il peut vous livrer à la mort comme il a fait pour Paul. Il peut vous livrer à la souffrance comme il a fait pour Job. C'est son privilège. Il est souverain. Mais tout cela a un but. S'il n'avait pas un but, il serait l'auteur du malheur et non l'auteur de la paix. Son but, c'est qu'après avoir souffert un peu de temps, nous soyons perfectionnés, que nous soyons établis, fortifiés et affermis. Tout ça dans un but, c'est ce qu'il a appelé, n'est-ce pas ? Il a déjà destiné à être semblable à son Fils, que nous ayons le caractère de Christ, n'est-ce pas ? Maintenant, ce caractère-là, le caractère même de Jésus a été perfectionné par la souffrance. Et il dit, on ne peut tout simplement pas former un caractère sans souffrance. Le caractère de Jésus-Christ, quand vous l'avez, vous exprimez le caractère de Jésus-Christ, le caractère, c'est une victoire, pas un don. Un homme qui n'a pas le caractère ne peut pas régner, car la puissance sans le caractère, c'est satanique. C'est la preuve de son amour. Les Thessaloniciens, ils ont passé des moments difficiles. Paul leur écrit. Paul dit, soyez pas troublés. Soyez pas affligés comme ceux qui sont sans espérance. Ce sont ces Thessaloniciens-là. Donc dans 1 Thessalonicien, il dit ceci à ces Thessaloniciens, il leur dit au premier chapitre, regardez comment ils aimaient Dieu. Verset 2, 1 Thessaloniciens 1, 2, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour et la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ, malgré tout ce qui vous est arrivé. » Devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus.
Amen. Amen.
Les Thessaloniciens l'aiment toujours, malgré tout ce qui leur est arrivé.
Amen.
Et Dieu les aime toujours.
Amen.
Dieu vous aime.
Amen.
Nous souffrons. C'est pour former notre caractère. Même dans ce monde inique, dans cet âge mauvais de Laodicée, Dieu conserve son amour pour ses élus. Dieu est en peine pour ses élus. Et vous savez, pour que ses élus ne soient pas perdus, il va même jusqu'à abréger les jours, rien que pour ses élus. Matthieu 24, et nous terminerons par là. Dieu vous aime. C'est le message que je voulais vous apporter ce matin. Ce qui nous arrive, ça nous montre que Dieu nous aime. Amen. Quelqu'un est allé nous accuser là-bas. Il a dit, tu vas voir, si tu leur enlèves ceci, tu leur enlèves celui-là, tu vas voir. L'assemblée restera vide. Eh bien, non. L'assemblée n'est pas vide. Maintenant, s'il y en a qui s'en vont, Jean dit dans 1 Jean 2, ceux qui sont partis, parce qu'ils sont partis parce qu'ils n'étaient pas des nôtres. S'ils sont des nôtres, ils resteront. Tout ce que nous avons à faire, c'est de faire confiance à Dieu. Ce qui est arrivé à notre frère Albert, nous faisons confiance à Dieu. Ce qui est arrivé à notre grand frère et notre grande sœur, nous faisons confiance à Dieu. Il nous est arrivé dans les familles, nous faisons confiance à Dieu. Nous l'aimons toujours. Nous chantons que nous l'aimons, parfois avec des larmes qui coulent. Mais nous l'aimons. Et Dieu voit dans nos cœurs que nous l'aimons. Matthieu 24. Ça, c'est pendant la tribulation. Mais il y a des élus parmi les Juifs que Dieu n'oublie pas. L'Église est partie. Verset 21. L'Église est partie. Car alors la détresse sera si grande, ça c'est la grande tribulation, qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dieu n'oublie pas ses élus. Si vous êtes un élu de Dieu, vous êtes un bien-aimé de Dieu. Vous pouvez être parti loin, il vous attend toujours. Il sait que son élu va revenir. Et l'élu est équipé de ça. Plus il souffre, plus il se rapproche de Dieu. On ne demande pas la souffrance. Si elle vient, que son nom soit loué. Nous allons chanter un peu comme les enfants. Let me move here. Le Seigneur même, bonheur suprême, et nous allons prier.